Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue à vous sur cette libre antenne. À 3 jours de Noël, j'avais envie de commencer cette émission par cette magnifique lettre de Jacques Brel. J'imagine que nombre d'entre vous la connaissent déjà, mais je pense que c'est toujours un plaisir de la redécouvrir. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil, des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fier de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Venez donc me parler de vous, de votre vie et de votre destin ce soir sur cette libre antenne. Pour prendre la parole, un seul numéro de téléphone, le 3921. Amandine et Hassan vous attendent au standard d'Europe 1 pour vous accompagner jusqu'à moi. Pour intervenir par SMS, vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot nuit. Vous êtes prêts? Fabrice Fougerouze aussi, moi aussi. Alors la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et on va commencer ce soir par le témoignage très positif de Julien qui a été alcoolique et qui va nous raconter comment il s'en est sorti. A tout de suite. Europe 1. C'est donc avec vous Julien qu'on ouvre cette libre antenne ce soir. Bonsoir Julien.
Oui, bonsoir.
Et vous vouliez apporter une touche d'espoir ce soir.
Ben oui, j'ai écouté hier soir votre émission en rentrant du travail et puis ça m'a donné envie de témoigner suite. Je crois que c'était Evelyne hier soir qui vous avait appelé et qui vous livrait aussi un message positif. Et voilà, dans ces moments un petit peu troublés, je voulais faire surtout preuve d'espoir finalement.
Hein, alors, racontez-nous.
Eh bien, mon parcours, c'est le parcours classique, je dirais, d'un malade alcoolique qui ne voit pas arriver finalement cette maladie grave qui est, je pense, l'un des plus grands drames de notre société actuellement. 12 ans d'alcool, au final, pour une vraie liberté.
Comment ça a commencé?
Eh bien, j'ai commencé à voir, je peux bien le situer dans le temps, c'était pendant les vacances avec mon épouse, nous étions avec nos deux enfants. Et puis, mes angoisses étaient toujours présentes, plus ou moins. Et puis, dans ces douces soirées d'été, sous la chaleur, bien, on prenait l'apéritif tous les soirs et puis une bière l'après-midi. Et puis, en l'espace d'une semaine, c'était fait.
Vous avez bu jusqu'à combien d'alcool en quantité par jour à ce moment-là?
Au tout début, vous savez, c'est très raisonnable. Et c'est le drame de cette maladie, c'est qu'on ne s'aperçoit pas qu'on tombe.
Oui, c'est ça, c'est sûr.
Malade alcoolique. Ouais. On dit chez les alcooliques anonymes, puisque je fais partie de cette association, que l'alcool est sournois. Ouais. Je peux vous assurer que c'est sournois. Et quand vous vous rendez compte, c'est ça qui est fou avec cette maladie, c'est quand vous vous rendez compte que vous avez un problème avec l'alcool ou que vous avez une dépendance avec l'alcool, c'est déjà trop tard.
C'est vous qui vous en êtes rendu compte ou on vous l'a fait remarquer autour de vous?
Je m'en suis rendu compte assez rapidement et ma femme m'a souvent posé m'a questionné sur ma consommation d'alcool. J'habite dans une région, je dirais comme partout, dans toutes les régions de France, mais dans le Choletais, où effectivement, il y a plutôt une forte consommation d'alcool, même très 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 jeune chez nous, quoi. Mes premières ivresses, j'ai pu les connaître, je crois que je devais avoir 13 ans et demi. Ouais.
Et c'était dans la famille quelque chose qui n'était pas inquiétant pour eux, pour vos parents ?
Non, parce que finalement, chez nous, dans notre région, dans ma famille, et puis dans la famille de grand nombre de personnes, l'alcool finalement fait partie du quotidien, si vous voulez. Ça peut être un tabou, si vous voulez.
C'est presque produit. Banalisé, alors, c'est ça ?
Ah, c'est totalement banalisé. Chez nous, l'alcool fait partie, je dirais même presque de nos gènes, si vous voulez. C'est quelque chose qui est présent. Souvent, je m'amuse à dire que l'alcool aura été présent avant ma naissance, le jour où on a appris que ma mère était enceinte. Et elle le sera encore jusqu'à ma mort, quand on ira prendre le verre de l'amitié après m'avoir enterré. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce produit, finalement, m'accompagne, m'a accompagné au quotidien pendant 12 ans et m'accompagnera encore jusqu'à la fin de ma vie.
Mais vous me parliez tout à l'heure, en commençant cette conversation, d'angoisse. C'était des angoisses de quoi que vous aviez ?
Oh, c'était des angoisses liées à mon hypersensibilité, certainement. Des angoisses liées à plein d'événements familiaux, plein d'événements surtout personnels. Mmh. Et du coup, j'ai trouvé dans ce produit, si vous voulez, un très bon anxiolytique. Mmh. Ce que font, je dirais, 99% des malades alcooliques.
Vous avez noyé les problèmes et l'angoisse dans l'alcool.
C'est ça. C'est ça.
Alors, comment est-ce que vous avez fait après ?
Eh bien, quand on se rend compte qu'on est malade alcoolique, il est inconcevable, et ça, il faut que les auditeurs et les gens s'en rendent compte, qu'il est dans notre cerveau inconcevable de ne pas consommer d'alcool. Mmh. C'est quelque chose qui n'existe pas. Et au fur et à mesure, ce produit prend tout l'espace, toute la place dans votre tête. Et tout doucement, votre vie ne tourne plus autour que d'une seule chose, c'est cette prise de produit, cette prise d'alcool. À quel moment elle va venir ? Est-ce que je vais pouvoir consommer ? Combien je vais pouvoir consommer ? Je peux pas aller ici parce que si je vais là, je vais pas pouvoir consommer ce que je veux. Et ça devient un cercle infernal, infernal.
Vous commenciez à quelle heure le matin ?
Alors, j'étais pas un alcoolique du matin. Par rapport à certaines personnes que je connais, j'étais un alcoolique du soir. Le verre de vin de 18h, l'apéritif, par exemple. Et puis, comme c'est quelque chose de coutumier chez nous, ça se faisait. Et le problème, c'est que plus le temps avance, moins le produit fait d'effet, si vous voulez. Oui. Donc, il faut augmenter cette quantité. Et au départ, je ne cachais pas ma consommation ni à mon épouse ni à personne. Et puis au bout d'un moment, ça se voit, ça se remarque que l'on consomme.
Vous aviez l'alcool comment, vous ?
Alors, j'ai jamais eu l'alcool mauvais, finalement. J'ai eu des excès, très très gros excès, mais j'ai jamais été violent. Non, c'était pas quelque chose qui me rendait violent. Déprimé sûrement, mais c'était pas violent. Non, il n'y avait pas de violence là-dedans. Il y avait surtout beaucoup de culpabilité.
Oui, parce que de ce que j'entends, vous étiez conscient en même temps de tout ça. C'est comme s'il y avait deux parties de vous, si vous étiez coupé en deux un petit peu, non ?
Ah, bah, pas du tout, mais vous savez que l'ensemble des malades alcooliques savent qu'ils sont malades alcooliques. Toute personne qui, aujourd'hui, se pose une question par rapport à sa consommation d'alcool et qui n'imagine pas ne plus vivre sans alcool, ont un problème d'alcool. C'est quelque chose de très très fort en fait.
Mais qu'est-ce qui a fait alors que vous avez réussi à prendre la décision d'arrêter et à y arriver surtout ?
Eh bien en fait c'est un déclic. Je m'alcoolisais de plus en plus et puis j'ai fêté l'anniversaire de mon fils, c'est 13 ans, et j'ai fini cette soirée-là dans un état d'ébriété extrêmement avancé. Et du coup, le lendemain, quand je me suis réveillé, quand je suis sorti de mes torpeurs alcooliques, j'ai pris la décision d'arrêter de boire.
Comment est-ce que votre fils a vécu cette soirée-là, d'ailleurs ?
Je pense que ça a été difficile pour lui, mais j'ai tellement bien caché mon jeu pendant tant et tant de temps que finalement, ça ne se voyait pas tant que ça. Non. Alors, l'alcool, c'est quelque chose de solitaire, c'est une maladie très solitaire finalement.
Ouais. Pourquoi est-ce que vous, ce soir-là, vous avez eu ce déclic alors ?
parce que ça faisait déjà un long moment que je voyais que je m'alcoolisais de plus en plus, et je ne sais pas expliquer à l'association, même tous les malades alcooliques qui ont arrêté de boire le disent, on a ce déclic en nous, dans notre cerveau, c'est en fait un instinct de survie. Oui. Parce qu'à l'alcool, si on ne s'arrête pas, il n'y a que trois issues. La première, c'est la moins douloureuse, je dirais, c'est la mort. La deuxième, c'est le handicap. Et la troisième, c'est la prison.
Oui, donc là, c'était la frontière ce soir-là pour vous.
C'était la bascule. Oui. C'était le moment où tout part, en fait. Où tout part en vrille. J'ai trouvé en moi, comme toute personne qui s'arrête, une volonté que je ne sais même pas aujourd'hui où est-ce que j'ai pu trouver cette force en moi pour pouvoir s'arrêter. C'est violent.
La force de survie dont vous parliez ?
Ouais, la force de s'arrêter de boire.
Le coup de talon qu'on donne quand on a coulé au fond ?
C'est exactement ça. C'est ce que j'explique avec ma psy, puisque j'ai la chance, dans notre région, on a la chance d'être extrêmement bien suivi. Mmh. On a un centre d'addictologie à Cholet qui est vraiment de très haute qualité. On a, je vais citer l'association ALIA, qui a un suivi vraiment parfait pour les personnes dépendantes, produits stupéfiants, alcooliques, enfin ce que vous voulez, quoi. Et il y a une équipe vraiment de professionnels et d'encadrants d'une qualité exceptionnelle, franchement.
Alors concrètement, pour aider les gens qui nous écoutent et qui sont dans cette situation, quelle est la première chose que vous avez faite ce matin-là ?
Eh bien, quand je me suis réveillé, j'ai dit à ma femme, j'arrête de boire. La première chose que j'ai faite, j'ai appelé mon médecin traitant. Parce que mon médecin traitant avait bien évidemment décelé cette souci d'alcool. La deuxième chose que j'ai faite, j'ai appelé le centre d'addictologie, qui par chance a pu me prendre dès le lendemain. Et la troisième chose que j'ai faite, le premier jour où j'ai arrêté de boire, c'était en juin, c'était le 12 juin, et cette date-là, c'était, comme on dit souvent, c'est ma naissance, c'est ma deuxième date d'anniversaire. Mmh. Et le premier soir, je suis allé à une réunion des alcooliques anonymes. Et cette association m'a sauvé la vie. Et quand je dis sauver la vie, je pèse mes mots.
Comment ça se passe alors quand on arrive là-bas pour la première fois, comme ça ? Comment on se sent ?
Ah, on se sent mal. On se sent dans un état pitoyable. On voudrait même pas être là. Et quand on pousse la porte, on voit des gens qui rigolent, qui sourient, qui sont bien, qui sont souriants et qui nous disent bonjour, comment tu vas, bienvenue. Et puis on nous écoute. Et on nous explique que toutes les personnes qui sont assises autour de cette table sont comme moi, malades alcooliques. La seule différence entre eux et moi, c'est que eux ne boivent plus d'alcool.
Mais ils vous comprennent en tout cas.
Ah mais c'est même plus comprendre, c'est...
Au-delà des mots.
C'est ça, on a vécu la même chose. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ouais,
comme toute proportion gardée, attention, je mets toutes, mais par exemple, deux personnes qui ont vécu un attentat, vous voyez ce que je veux dire ? Elles auront le même vécu.
Et on n'a pas besoin de s'expliquer longuement, on se comprend tout de suite.
C'est ça. Ouais. Et dans les partages, puisqu'on appelle ça nous des partages, et c'est pour ça que ce soir, je viens aussi partager avec vous et avec les auditeurs, on partage des expériences de vie, et c'est ce qui règne dans ces soirées de réunion, c'est le qu'on ne trouve plus ailleurs dans notre société, c'est l'écoute.
Et la bienveillance, j'ai l'impression aussi.
Ah, ben c'est, oui, bien sûr, la bienveillance, oui, bien sûr, de l'empathie, de la bienveillance et de l'écoute. Et à partir du moment où vous prenez la parole et à partir du moment où vous arrêtez de parler, dans ces réunions, personne n'interrompt, personne ne discute et ça n'ouvre aucun débat. On vient juste livrer son témoignage, son expérience, ou comment on va, ou si ça va bien ou si ça va pas.
Donc et vous savez que vous ne serez pas jugé, en fait, c'est ça.
Ah, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de jugement. Et je pense à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui dans l'alcool, dans le produit. Peut-être certains nous écoutent ce soir. S'ils nous écoutent, je sais ce qu'ils se disent. Je sais très bien ce qu'ils se disent au plus profond de leur cœur. Ils se disent « mince ». Enfin, ils se disent pas « mince », ils se disent « merde ». c'est des conneries ce qu'ils racontent, ce gars-là, je suis pas alcoolique. Alors qu'en fait, ils savent très bien qu'ils sont malades alcooliques. Et moi, mon message ce soir, c'est de dire, les gars, les filles, il y a de l'espoir. Je vous assure qu'il y a de l'espoir. Parce que si moi, je m'en suis sorti, alors vous aussi, vous pouvez vous en sortir. Vous voyez ce que je veux dire ?
C'est très important ce témoignage-là, Julien, évidemment.
C'est hyper important, que ça soit cette maladie alcoolique ou parce que depuis l'arrêt de l'alcool, il m'est arrivé de drôles de choses, mais bon, peu importe, c'est autre chose. Mais quelle que soit la chose qui vous est arrivée, la plus difficile, la plus violente, la plus meurtrissante, quoi qu'il se passe, je suis intimement convaincu qu'on a chacun en nous et que vous avez chacun en vous la capacité à vous en sortir. Et ça, j'en suis intimement convaincu.
Chaque jour est un nouveau départ.
Chaque jour, à l'association, on dit 24 heures à la fois. Oui. Vivre 24 heures à la fois. Hier, c'est du passé. On ne changera rien. Demain, on ne sait pas. Essayons de vivre 24 heures à la fois, du mieux qu'on peut, avec le plus de gentillesse possible, avec le plus de bienveillance possible. Et je peux vous assurer que si tout le monde vivait comme ça, le monde irait beaucoup mieux.
C'est très intéressant ce que vous racontez, Julien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas ouvrir la porte de cette association, qui ont très peur de cette fameuse première réunion.
Cette première réunion, elle est capitale. J'ai été accueilli, je me rappelle de cette dame d'une beauté rare, physiquement, et elle rayonnait. On avait l'impression que le soleil sortait de sa tête. Et je ne pouvais pas croire que cette femme avait été comme moi. C'est-à-dire qu'elle a poussé aussi la première fois la porte de cette association des alcooliques anonymes. Et vous y trouvez une telle écoute, et c'est surtout ça, une telle compréhension de ce que nous sommes, parce qu'au final, personne ne peut comprendre ce qu'on a vécu. Et on dit souvent qu'il n'y a qu'un malade alcoolique qui peut aider un autre malade alcoolique. Et je témoigne ce soir parce que cette maladie, c'est pas une honte. Moi, j'ai dit à tout mon entourage que j'étais alcoolique. Voilà, c'est comme ça, point. Voilà, moi, je suis malade alcoolique. Bon, bah, qu'est-ce que t'as fait pour plus être malade ? Bah, c'est pas compliqué, j'ai arrêté de boire. Voilà, c'est tout simple. Alors, attention, je dis pas que c'est facile. Je dis pas que ça se fait en deux jours et que on passe par des moments extrêmement difficiles. Certains ont besoin de cure. Moi, j'y suis pas allé, j'ai pas eu besoin, mais c'est difficile. Mais vous avez dans cette association des gens qui sont là pour vous aider.
Alors justement, racontez-moi le parcours. Vous parlez de la première réunion, mais après, concrètement, qu'est-ce qui se passe ?
Dans ces réunions, on discute, on prend la parole chacun à son tour et on écoute l'autre.
Mais pas que dans ces réunions, je veux dire, pour vous, après le chemin jusqu'à l'arrêt complet définitif.
Oui, mon généraliste m'a mis en place un traitement qui n'était pas efficace, donc j'ai arrêté, j'ai pris des anxiolytiques pour me calmer un peu. Mmh. Et puis après, c'est dans la tête.
Est-ce qu'il y a eu un sevrage physique difficile ?
Oui, j'ai eu un sevrage un petit peu compliqué quand même. Je dirais que ça durait quand même une quinzaine de jours, où c'est un petit peu difficile. Alors après, je buvais pas d'alcool fort, donc si vous voulez, mon corps a quand même réussi facilement à éliminer les toxines, mais pour ceux qui consomment des alcools forts ou en trop grosse quantité, il faut un sevrage physique et surtout suivi. Yes. Parce que là, ça peut être très violent. Ça peut être très très violent. Donc non, faut être vigilant.
C'est le passage le plus difficile pour vous, ce sevrage ?
Non, oh non, c'est rien. C'est rien du tout le sevrage. C'est quoi qui est difficile ? Mais ce qui est difficile, c'est finalement la relation que notre pays a avec ce produit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce produit qu'on dit soi-disant culturel, d'abord je ne sais pas qui a dit que c'était culturel, moi je n'ai pas dit que c'était notre culture, ça peut être une tradition de fabrication, mais je peux vous dire que quand on n'a plus le nez dans l'alcool, on comprend plein de choses, on voit que la vie est belle, on se rend bien compte que ce produit qui est hautement toxique, et ça, il faut que les gens le sachent, hautement toxique, fait des milliers de morts par an, fait des milliers de victimes. victimes de la route, et des milliers de, malheureusement, de femmes battues, parce que souvent, quand il y a violence physique, il y a bien souvent alcool.
Oui, ça vient de là souvent, oui.
Et soyons conscients que nous vendons ce produit, c'est en vente libre, on est d'accord.
Ouais. Hein, c'est officiellement interdit aux mineurs, mais ils se débrouillent toujours pour s'en procurer.
Non, non, oui.
On ne leur demande pas leur carte. Hein.
C'est interdit aux mineurs, mais c'est-à-dire qu'on met une partie de la France sous perfusion alcoolique pour calmer, pour éviter que les gens... vous voyez ce que je veux dire ? C'est extrêmement puissant.
Vous pensez qu'en rendant les gens dépendants, on les dirige mieux ?
Bah, bien évidemment.
On les manipule mieux ?
Bien évidemment. Vous imaginez bien que quand vous êtes sous l'emprise d'un produit alcoolique, et ça va très vite, on peut être très très vite... de toute façon, on ne réfléchit plus, puisque la seule chose qui nous intéresse, c'est la bouteille. Vous voyez ce que je veux dire ?
Et dites-moi, dans tout ce parcours-là, votre épouse, elle a vécu ça comment ? Quel rôle elle a joué ?
Mon épouse me faisait part sur la fin qu'elle voulait cesser notre vie de couple parce que c'était difficile pour elle, hein, même si elle ne se rendait pas compte de comment je pouvais consommer. Mais elle m'a accompagné dans mon soin. Elle m'a laissé faire mon chemin, si vous voulez. Je pense qu'il fallait que je traverse cette épreuve seule, au final. Parce qu'il faut la traverser seule, cette épreuve. Parce que je ne peux pas être compris totalement par quelqu'un qui n'a pas vécu. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc elle est restée en retrait, mais elle n'est pas partie.
Non, 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 non. Non, 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 nous sommes toujours ensemble. Excusez-moi, c'est que j'ai mon fils qui passe en même temps. Non, 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 nous sommes toujours ensemble, mais c'est vrai que ça modifie quand même beaucoup de choses. Hein. Je ne suis plus la même personne que j'ai été quand je buvais, vous voyez ?
Mais est-ce que vous êtes redevenu celui que vous étiez avant ? Ou c'est encore un autre Julien là qui est en train de naître ?
C'est une... Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une renaissance. C'est-à-dire qu'on se réveille tout d'un coup et on redécouvre la vie. Par exemple, quelque chose de tout simple, on a la capacité de se déplacer en voiture. Quand on veut, en fait. Le matin, le soir, la nuit, il n'y a plus de questions par rapport à ça. Il n'y a plus à se poser de questions. Est-ce que j'ai acheté assez de rosé pour ma soirée ? Est-ce que je vais pouvoir consommer là ? Ah bah non. Vous voyez, il n'y a plus d'anticipation.
Ça s'appelle la liberté.
Mais je suis libre aujourd'hui, Sabine.
Oui, c'est ça.
Je suis un homme libre.
On a l'impression qu'on s'évade avec l'alcool alors que c'est l'inverse, on s'enferme.
Il est bien fait ce produit parce qu'on a cette liberté illusoire qui ne dure qu'un temps et qui, au fur et à mesure des journées et des soirées, nous enferme. Mais ce qu'il faut bien que comprennent les gens, c'est que c'est très très fin. Vous voyez, pendant les vacances, ça peut être à l'occasion des apéritifs ou pendant les fêtes, ça peut être là pendant les semaines qui viennent. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on prend un peu plus d'alcool que d'ordinaire, et puis il suffit qu'à un moment de l'année, on soit un peu moins bien, et ben boum, ça y est.
Ça va très vite. Hein, ouais.
Ça va extrêmement vite. Extrêmement vite. Extrêmement vite. Mais pour celui qui est encore dans le produit, voilà, je voulais leur dire, lui ou parce qu'il y a des chances qu'ils aient quitté votre antenne, parce que quand on est malade à l'alcoolique, on n'a pas envie d'entendre ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Le témoignage que je donne ce soir, on n'a pas spécialement... Ça dérange, en tout cas. Mais il est possible d'aider. Il est possible de s'en sortir. Et je voulais donner aussi un message pour l'entourage aussi des malades alcooliques. C'est que souvent... L'entourage a tendance à vouloir contrôler, à vouloir regarder ce que va consommer.
Ou même à cacher les bouteilles quelquefois.
Oh, oui, ou à cacher. Alors, je comprends qu'ils pensent bien faire, mais c'est exactement l'inverse. C'est exactement ça qu'il ne faut pas faire, parce que plus vous frustrez un malade alcoolique de son produit, de sa drogue en fait, hein, plus vous allez le mettre dans un état d'énervement fou au final.
Oui, parce que c'est incontrôlable, bien évidemment.
Ah, mais c'est quand je vous dis qu'on perd la notion de contrôle, c'est qu'on perd la notion de contrôle complète.
Julien, on a une auditrice qui nous pose une question pour vous. Que fait-on pour des enfants dont les parents sont alcooliques ? Existe-t-il des structures ou des associations pour aider les enfants qui sont victimes de leurs parents alcooliques ?
Alors, nous, à l'association des Alcooliques Anonymes, on a ce qu'on appelle les Alanons. Ce sont je sais que dans certains endroits, ça se fait. On reçoit les compagnes et compagnons des malades alcooliques et parfois aussi les enfants. Dans certains groupes, ça se fait. Mais si les enfants sont mineurs, alors après, ça relève, je dirais, du domaine de la santé, hein, d'un placement. Si les enfants sont majeurs et que leurs parents sont malades alcooliques, je peux leur conseiller de se rendre à une réunion des Alcooliques Anonymes et ils trouvent sur Internet, hein, y a tous les liens partout, il y a des réunions dans tous les départements, dans toutes les villes de France.
Ils peuvent aussi venir frapper à cette porte-là.
Bien sûr, bien sûr. Ils appellent les Alcooliques Anonymes et on va leur donner des numéros de téléphone où il y aura des réunions aussi pour celui qui partage la vie d'un malade alcoolique parce que partager ce quotidien-là, être malade alcoolique, c'est pas simple, mais je pense que partager la vie d'un malade alcoolique, c'est aussi bien compliqué.
Alors, on dit qu'on ne guérit pas de cette maladie-là, vous en êtes où aujourd'hui ? On dit qu'on est en rémission, c'est ça ?
On est abstinent.
Abstinent.
Ni plus ni moins. En fait, je bois plus d'alcool depuis à peu près un an.
Est-ce que c'est plus une goutte ou c'est quand même juste un verre de temps en temps ?
Si demain je rebois, et ça les gens ne s'en rendent pas compte, il faut qu'ils le sachent, si demain je rebois une gorgée d'alcool, ça va rouvrir dans mon esprit, dans ma tête, tous les petits clapets que j'ai mis tant et tant de temps à fermer.
Ouais.
C'est-à-dire que...
Belle image.
C'est une belle image, mais c'est la réalité.
Ouais, c'est ça.
Il m'a fallu tellement de mois pour aller fermer les uns après les autres ces petits flashs, ces petites ouvertures qu'on ferme patiemment. Et je sais que là, si je rebois, c'est reparti. Et si j'ai décidé de reboire, alors je reboirai. C'est un combat. C'est un combat et une veille de toute une vie, au final.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'être tenté, là, depuis quelque temps ?
Depuis le début de la semaine. C'est vrai que je disais à ma femme, je dis pas merde, j'aurais bien bu un verre. Et puis,
comment vous gérez ça alors ? La volonté uniquement ?
Eh ben, j'ai pas envie d'y retourner.
Ouais.
Je recommence pas. Mais comme on dit, on fait 24 heures à la fois. Et puis souvent on dit abstinent pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. Et si je peux être abstinent demain et encore après-demain et encore après-demain. Et puis si malheureusement il y a rechute pour certains d'entre nous, eh bien ça arrive. Hein, c'est comme ça. Et puis on recommence et on se rebat. Et on y arrive.
Et on retourne fermer les clapets.
Et on retourne fermer les clapets s'il y a besoin d'y retourner. Ouais. Voilà. C'est... Franchement, ce qui m'est arrivé, j'ai aucun regret, au final. Aucun regret sur ces années. Ça a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Et je suis sûr que tout celui ou toutes celles qui ont un problème d'alcool ont la capacité. J'en suis certain.
Merci Julien pour ce beau témoignage.
Mais je vous en prie.
Bravo et à puis, vous pour ce parcours et merci surtout d'avoir partagé ça avec les auditeurs ce soir.
Eh bien écoutez, c'était un grand plaisir. Ça faisait un moment que je voulais le faire et puis je trouve qu'à la veille de Noël, c'est sympa.
Ben, voilà. Je suis ravie de vous avoir eu et vraiment je vous remercie infiniment.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année.
Merci. À vous merci. Aussi Julien. Merci. Au revoir.
Au revoir.
Et pour tous ceux qui, comme Julien, doivent faire face à une addiction, quelle qu'elle soit, je peux vous conseiller d'apprendre à vous servir d'un outil très puissant qu'on appelle l'auto-hypnose. Si ça vous intéresse, je vous recommande le livre qui s'appelle « Auto-hypnose pour débutants » de Patricia D'Angeli et Olivier Lockert. Et c'est maintenant Laurent que j'accueille sur cette libre antenne. Bonsoir à vous, Laurent.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Merci. Merci de me donner la parole ce soir.
Alors, je vous écoute. De quoi est-ce que vous aviez envie de parler ?
Bah écoutez, j'avais envie de parler ce soir, donc comment vous dire, on est à 3 jours de Noël, vous l'avez bien dit tout à l'heure. On a également, vous avez entamé l'émission de ce soir avec la lettre de Jacques Brel qui parlait de rêve et de passion, je crois. Et donc, moi, je voulais parler ce soir de la possibilité de, d'utiliser Internet comme un outil, en fait, pour créer du lien quand vous êtes seul. Donc, moi, je me présente un peu, hein. J'ai 37 ans, je vis seul. Ça, il faut bien l'admettre. Donc, il n'y a aucun doute, hein. Ça crée évidemment un genre de... Oui, je pense que les professionnels pourraient, eux, qualifier ça de détresse affective, de manque. Je pense qu'on pourrait qualifier ça comme cela. Pour ma part, je vous avoue que j'ai trouvé sur Internet, avec cet outil du 21e siècle qu'on accuse très souvent, finalement, de briser du lien humain, ce qui est possiblement vrai, hein, je ne remets pas cela en question, je ne porte aucun jugement. Chacun a son avis et chacun est libre. Pour ma part, je vous avoue que avec ce même outil, j'ai trouvé une communauté qui m'a permis, moi, de créer du lien à ce niveau. Alors, je vous dirais même du lien presque affectif, puisque sans rentrer dans les détails de ma vie privée, on va dire que j'ai une santé fragile, plusieurs problématiques de santé qui font que, contrairement peut-être à d'autres auditeurs, je ne vais pas aisément, on va dire, dans le réel vers le sexe opposé. Donc effectivement, affectivement, Internet répond également à ce besoin. Alors, plusieurs sites, alors on pourrait penser, hein, mon Dieu, que fait-il cet homme? Internet tout seul, pornographie, alors oui, pornographie, enfin, je veux dire forcément, après tout, enfin, je suis célibataire, donc je ne cause de tort à personne, c'est encore
bien
légal
sûr,
en France,
sûr,
Dieu merci.
Bien sûr, c'est pas la peine d'être hypocrite, en plus beaucoup de gens le font. Donc.
Bien sûr, énormément de gens le font, donc moi, il y a plusieurs sites, hein, il y a plusieurs sites qui existent. Voilà, moi j'ai trouvé surtout une véritable communauté, donc sur Cuir et Dentelle. Ça c'est un site communautaire où effectivement, oui, j'ai parlé, échangé avec des femmes. Elles se sont intéressées à mon cas. Oui, elles m'ont accordé de l'attention, de leur temps. Et alors oui. Vous le disiez très très bien, Sabine, ne soyons pas hypocrites. Oui, ça n'est pas gratuit. Oui, au même titre qu'une comment vous dire ça? Sincèrement, si je devais aller oserais-je vous dire, si je devais aller comment trouver les bons mots? Si je devais
voir une professionnelle.
C'est ça, si je devais aller voir des professionnels pour commencer à essayer d'exorciser mes angoisses personnelles, en fin de compte, ça me reviendrait beaucoup plus cher que sur ce site. J'aurais moins de liens humains, puisque le lien est professionnalisé, donc il est encadré par une profession. Il est limité dans le temps, alors que super clairement, si je vais sur le site, j'ai pas de problématique particulière. Tant qu'une femme est disponible, et qu'elle me fait pas comprendre que là elle peut plus, elle a plus le temps, c'est plus possible. Bon écoutez, ça reste possible. En plus, la magie d'Internet, c'est que vous le faites quand vous voulez. Vous voyez là, aujourd'hui je vous parle, il est possible que vous ayez d'autres auditeurs qui soient en même temps que je vous parle sur ce site en train eux-mêmes d'échanger avec des femmes. Alors que essayez de trouver un professionnel ou une professionnelle à 23h45 en France.
Mais en dehors de ça, Laurent, vous parlez de liens, en dehors de ce côté sexuel et intime, est-ce que vous avez des liens amicaux grâce à Internet? Est-ce que vous êtes sur Facebook? Est-ce que vous êtes sur des sites de partage ou même simplement...
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, j'ai une vie sociale sur Internet qui s'est développée. Donc, j'ai tout à fait... J'ai mon Facebook, je dispose d'un Twitter, je joue à des jeux en ligne également, donc j'ai d'autres communautés. Après, voilà, c'est ce que je vous disais au début, c'est que voilà, j'ai une santé qui est fragile, pas facile. Donc moi, j'ai eu à affronter plusieurs problématiques au niveau affectif, au niveau santé, et même, vous le disiez à l'instant, au niveau sexuel. Donc moi j'ai dû, comme on dit, hein, il a fallu que je trouve ce qu'on appelle une sexualité de manière alternative. Donc, et parce que à l'époque, et donc oui, j'étais allé voir même des professionnels, les gens m'ont dit, mais monsieur, dans votre condition, monsieur, mieux vaut plonger sur un dérivatif de type fétichisme. Donc oui, je l'assume, je l'avoue. Sincèrement, moi je suis aujourd'hui devenu fétichiste, multi-fétichiste, et donc évidemment, alors le fétichisme, pardon, pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, le fétichisme c'est obtenir donc du plaisir sexuel, mais pas forcément sur un plan physique, hein. C'est obtenir du plaisir sexuel psychologiquement, ou une satisfaction psychologique, par le pouvoir d'un objet, d'une partie du corps. Donc un fétichisme courant, hein, c'est celui des pieds féminins, par exemple. C'est extrêmement courant, beaucoup d'hommes le sont et très peu d'hommes vous l'avoueront. Mais si vous faites le tour de vos connaissances en questionnant un tout petit peu, je suis sûr que vous pouvez en trouver parmi vos connaissances, et il y en a sans doute qui se reconnaîtront parmi vos éditeurs et auditrices, puisqu'il n'y a pas le fétichisme, ce n'est pas le propre du sexe masculin. Hein. Une femme peut être fétichiste elle-même, hein, tout à fait. Enfin, moi je vais sur un site, je vous avoue, je me rends pas compte quand je parle à une femme. Oui, je lui achète des objets, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur cuir et dentelle, j'achète des objets, mais très sincèrement, j'achète des objets, des prestations, effectivement, ça il n'y a aucun doute. Mais par contre, les femmes qui sont là-bas sont des femmes qui ont éventuellement une situation professionnelle à côté, une situation maritale, parfois elles-mêmes ont des soucis de communication dans leur propre vie affective, et donc on se retrouve exactement dans la situation qu'évoquait votre auditeur précédent. Quand vous êtes fétichiste, vous le vivez tout seul. Vous êtes tout seul au départ, et vous avez honte.
Vous considérez ça comme une addiction ?
Le fétichisme, est-ce qu'on le vit comme une addiction ? Ça dépend comment vous le vivez. En l'occurrence, si vous ne trouvez pas une communauté active avec laquelle échanger, partager, le fétichisme peut vous amener à des dérives, bien sûr. Puisque vous allez arriver et vous pouvez tomber sur des gens mal intentionnés qui vont détecter cette addiction, cette faiblesse, si vous préférez, et qui vont en profiter. D'où l'intérêt de trouver des sites communautaires où, effectivement, quand vous arrivez, on vous le dit de but en blanc, c'est comme ça, ça sera cadré ainsi, c'est telle prestation, telle durée, à tel prix. Ah bah oui, mais au moins, là, votre addiction, elle est cadrée. Vous savez où vous allez, on ne vous prend pas en traître.
Alors que vous trouviez votre bonheur là-dedans, c'est très bien, mais en dehors de ça, vous sortez, vous travaillez ?
Alors, je ne peux plus travailler. Je suis en invalidité aujourd'hui. Donc, effectivement, si ça vous donne un élément explicatif par rapport au fait que je passe effectivement beaucoup de temps sur Internet.
Mais est-ce que vous sortez quand même de chez vous de temps en temps ?
Bien sûr. Alors oui, j'ai aussi mes amis classiques. Hein. Je peux sortir, je peux aller boire un verre, je peux aller faire un restaurant, etc. Maintenant, je vous l'avoue, aborder le domaine affectif, sentimental, sexuel, c'est beaucoup plus compliqué. Pour moi, hein, j'entends ici, à ce niveau. Et par ailleurs, je suis bien plus souvent jugé par les personnes qui me connaissent dans la vie, et même par ce que j'appellerais mes connaissances ou amis, que par les gens qui sont comme moi fétichistes. De la même manière que, possiblement, Julien, quand il était alcoolique, se sentait peut-être plus facilement jugé par des gens qui ne comprenaient pas ce qu'il vivait que par ceux qui partageaient son addiction. Oui, on peut le dire comme ça. Mais c'est pour ça que c'est très important de trouver, quelle que soit la problématique que vous avez, il faut trouver du positif dedans. Si vous ne savez pas le transformer en quelque chose de positif, si vous n'êtes pas capable d'aller vers les autres, si vous n'êtes pas capable de vous dire « Voilà, je dois rompre le cercle de ma solitude alors qu'on est à 3 jours de Noël », là, vous avez un vrai problème. Et en cela, moi, je dois vous l'avouer, hein. Je vais être très franc. Cuir et dentelle, ça veut dire quoi pour moi?
Laurent, j'aimerais bien que vous arrêtiez de faire la pub pour ce site, parce que c'est pas...
Ah, pardon, excusez-moi, je m'emporte, excusez-moi.
J'entends de votre message que quand il y a un déséquilibre, vous retrouvez l'équilibre, et ça c'est très positif. Voilà, le reste, c'est pas le...
Oui, tout à fait. Alors, excusez-moi, c'était pas du tout volontaire de ma part. Vous voyez, pour moi, c'est naturel. Je suis désolé. Pour moi, le fait est de dire que c'est... voilà, pour moi, le positif de la chose, c'est de me dire, bon, ben voilà, je me sentirai moins seul à l'approche de Noël. Vous voyez ? Pourtant, attention, hein, ne croyez pas, comme vous, comme les auditeurs, je vais aller passer Noël en famille, etc., etc., il n'y a aucun doute, mais il y aura toujours cette part de solitude qui sera en moi et que je ne peux pas assouvir ailleurs.
Cette différence qui n'est pas forcément comprise par les gens qui sont autour de vous, en fait.
Tout à fait, parce que c'est un sujet peut-être qui est beaucoup plus tabou que les causes dont nos politiques ont pu s'emparer, etc., etc. Et qui, effectivement, est mieux accepté par la société aujourd'hui.
Vous parliez de... C'est une maladie ou un handicap que vous avez ?
Alors, moi, c'est un... Alors, c'est un... Quelle différence faites-vous ? C'est un handicap qui est pour moi quotidien.
D'accord. Parce qu'effectivement, le problème de la sexualité et du handicap est un problème extrêmement tabou en France. Là, je vous rejoins complètement.
Oui.
On a tendance à fermer les yeux, à dire que ça n'existe pas.
Je le vis.
Et d'où cette solitude des gens comme vous qui sont confrontés à ça. Parce qu'effectivement, sinon pas la force que vous avez de trouver un dérivatif, un endroit comme là, vous avez trouvé ce site. Voilà. Effectivement, ils peuvent être rapidement complètement exclus et dans une grande souffrance.
Oui.
Il n'y a pas grand monde pour en parler, en fait, en réalité.
Bien sûr, mais c'est pour ça que je vous remercie. Je vous remercie tout à fait de m'avoir donné un espace pour exprimer la parole. Par ailleurs, il faut quand même préciser, je précise, puisque ici, moi, je ne parle que de mon cas, je n'ai pas le droit de dire que sur ce genre de site, il n'y a que des personnes en situation de handicap.
Non, bien sûr, là, vous avez raconté votre histoire et comment vous avez trouvé une solution à ce déséquilibre, vous avez rééquilibré votre vie comme ça.
Tout à fait.
Et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux pour vous si c'est quelque chose qui vous fait du bien.
Mais c'est pour ça que je venais, c'était pour... parce qu'effectivement, donc là, par contre, comme Julien... je trouvais important, si vous voulez, à 3 jours de Noël, de dire aux auditeurs qui sont possiblement comme moi, voyez, qui peuvent se sentir seuls, soit par cause de handicap, soit pour des tas et des tas d'autres raisons, leur dire, voilà, il y a des endroits qui existent, vous pouvez avoir un truc plus joyeux, vous pouvez vous prendre en main, essayez au moins. Pas forcément comme moi, mais trouver quelque chose et avoir un message positif.
Merci Julien pour ce témoignage. Mais Laurent, pardon.
C'est Laurent. Aussi
effectivement. Que Julien,
c'est
pour
moi.
Ça.
C'est moi Sabine qui vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de soirée.
Je vous embrasse et je vous souhaite de bonnes fêtes.
Mais à vous également. Merci.
Au revoir Laurent.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Petite heure à passer ensemble. Si vous voulez prendre la parole, un seul numéro de téléphone, le 3921. Amandine et Hassan sont là, ils sont prêts à vous accueillir au standard et à vous amener jusqu'à moi dans ce studio. Vous le savez, sur cette libre antenne, nous pouvons parler de tout. 3921 donc par téléphone et puis toujours par SMS pour réagir à l'émission. 73921 en commençant bien par le mot nuit. A tout de suite.
23h, 1h. La libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Bonsoir Agnès.
Bonsoir Sabine. Vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien. Bienvenue sur cette libre antenne Agnès.
C'est gentil, merci. Voilà, Sabine, je vous appelle parce que je suis préoccupée. Alors, je vous explique. Je me suis mariée très jeune, j'avais 18 ans et demi, et j'ai 4 enfants. Alors, j'ai 2 enfants que j'ai eus avec mon mari. Donc, une fille est née et j'ai eu un petit garçon 7 ans après. Et je suis la mère spirituelle de 2 jeunes femmes qui ont toutes les 2 50 ans.
Qu'est-ce que vous appelez la mère spirituelle ?
Eh bien, écoutez, je ne sais pas, c'est elle qui m'appelle comme ça.
Ce sont des,
alors,
des
c'est
filles
deux jeunes
amis,
femmes ouais. qui n'avaient l'aînée, je dis l'aînée parce qu'elles ont toutes les 2 50 ans. Alors, elles ont, comment dire, il y en a une qui est grande, alors je dis ma grande et ma petite. Alors, la grande avait perdu ses parents, elle avait 19 et 20 ans. Et puis, on se connaissait et on s'appréciait beaucoup. Et quand elle a eu 35 ans, elle m'a dit « Accepteriez-vous d'être ma mère spirituelle ?» J'ai dit « Oui, je veux bien accepter. » En fait, elle me demandait un petit peu qu'on me ferait une marraine, vous voyez. Mm-hmm. Vous comprenez comme ça ?
Ou un ange gardien même, presque.
Bah, peut-être, je ne sais pas exactement, parce que quand elle s'est mariée, le photographe a dit « Madame, vous devez être la maman de cette jeune femme ». Elle a dit « Non, c'est ma mère spirituelle, mais c'est pareil ».
C'est formidable, voilà. Ça, comme relation d'amour.
Comment ?
C'est formidable, une relation d'amour que l'on choisit comme ça.
Ben oui, et puis alors la petite, qui a 50 ans aussi, donc, alors elle, c'est autre chose. Alors, la grande, c'est 1m70 et la petite, 1m58. C'est pour ça que je dis ma petite. Alors, celle-ci, elle a des problèmes en ce moment. Et c'est-à-dire que depuis 2 ans, elle est en conflit avec son mari. Ses 4 enfants ont été élevés, ils ont de belles situations, ça se passe bien. Elle est seule avec son mari et il y a eu un conflit assez important dans le couple. Et ils ne se sont pas du tout compris. Et depuis 2 ans, son mari la frappe. Alors, elle est battue. Dès que le ton s'élève, il se jette sur elle, il lui met des gifles, après il lui met des coups. Et ça tient comme ça, ça dure depuis 2 années. C'est par période. Alors, elle vient vers moi, elle me confie ça. Et alors, elle est suivie actuellement par un psychiatre qui la comprend très bien pour les médicaments. Et elle est suivie par une psychanalyste parce qu'elle avait déjà commencé une psychanalyse, mais il y avait un moment. Et là, elle a donc repris. Alors, évidemment, cette affaire, en aidant ma petite, ça m'a beaucoup bousculée parce que j'ai quitté mon mari il y a 28 ans parce que mon mari était violent. Il était plus que violent. Je me suis mariée jeune, mon mari avait une situation, il avait 23 ans. Tout le monde a été rassuré en disant « bon, c'est bien, elle fait un beau mariage, c'est un notable ». On était installés dans la ville, on était connus, ça se passait bien. Et puis mon mari était quand même il était violent verbalement, il était violent physiquement. Vous savez bien ce que c'est une femme violentée.
Bien sûr.
On est méprisé, il m'a coupé du monde, enfin. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, je ne me suis jamais sentie sous emprise parce que je lui tenais tête. Il n'aimait pas ça, hein, mais je lui tenais tête.
Comment vous faisiez pour lui tenir tête ?
Eh bien, je lui tenais tête. Par exemple, il me disait « Bon, il y a ça, là, ça va pas, qu'est-ce que tu as fait hein ?» Ah, je lui disais « Non, tu te trompes, je t'assure, j'ai pas fait ça. » Alors même si parce que j'avais une chance sur lui, c'est que je gardais toujours mon calme. Et lui, plus j'étais calme et plus il s'énervait.
Mais vous avez pris des coups quand même, Agnès.
Comment ?
Vous avez pris des
coups ? Ah oui, beaucoup. Ah oui, j'ai pris des coups. J'ai pris beaucoup de coups. Et un beau jour, mais j'ai vite été me réfugier chez Solidarité Femmes. J'habite une grosse ville. Ils sont importants dans notre ville. Et ils m'ont beaucoup, beaucoup soutenue. Et puis, au fil du temps, je ne me suis pas habituée aux coups, mais je devais être une bonne comédienne, parce que quand on avait des soirées, des mondanités, eh bien, ça ne transparaissait pas. Je ne le montrais pas. Et si, par exemple, j'avais des bleus sur le visage, je n'y allais pas, bien évidemment. Je n'y allais pas. Donc, je lui ai dit que je voulais m'en aller et divorcer. Et là, il a dit qu'il n'en était pas question, que de toute façon, j'étais incapable de me prendre en charge, que je n'existais que par lui, que je n'existais que par lui et que je ne m'en sortirais jamais et qu'il ferait tout pour que je ne m'en sorte pas. Et là, j'ai découvert une autre facette du personnage, c'est que là, il est devenu cruel. Et ça a été terrible. Parce que, vous voyez, les coups, c'est... Comment expliquer ? Les coups, ben, il me disait qu'il avait des pulsions. Alors, il me frappait, mais c'est comme si il savait quand même s'arrêter. Vous voyez, un jour, par exemple, c'était le mauvais coup au mauvais endroit. J'ai vu qu'il allait me mettre un coup de poing. Je l'ai vu, il était face à moi. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas compris, au moment où le coup de poing est arrivé, avant qu'il me touche, j'ai perdu mes urines.
Oui, c'est la
Toutes
peur.
Toutes mes urines sont tombées.
C'est la peur, ça. C'est un réflexe physiologique de peur.
J'ai pas compris pourquoi. Il m'avait pas touchée encore.
Oui, mais vous saviez que ça allait arriver.
Oui, je savais que ça allait arriver, que ça allait tomber. Et à ce moment-là, instinctivement, j'ai tourné la tête. Et bien évidemment, le coup de poing est tombé sur l'oreille. Et le coup de poing étant tombé sur l'oreille, j'ai été KO. Alors, je vous passe les détails parce qu'il ne voulait pas qu'on m'emmène. Il a dit à mon fils, je ne veux pas qu'elle aille à l'hôpital parce que comme il m'avait frappé avant, j'avais des bleus sur le corps. Donc, je suis restée quand même une journée comme ça. Et puis, mon fils, son père était parti au travail. Voyant que je ne me réveillais pas, il a quand même appelé le SAMU.
Quel âge avait votre fils à ce moment-là quand il a vécu ça ?
18 ans.
D'accord, donc il était quand même grand.
Oui, il était adulte.
Oui. Donc il a pu.
Il avait 18 ans. Je lui disais viens. Je lui disais après, t'aurais dû venir tout de suite. Tant bien entendu. Il m'a dit je ne pouvais pas. J'étais collée à la chaise. Je ne pouvais pas me soulever. Oui, il était au courant.
Il avait peur lui aussi.
On avait tous peur. Mais ma fille aînée était mariée. Elle avait un petit bout de chou, là, déjà, qui avait 2 ans. Mais elle a vu, elle sait ce que j'ai vécu, elle l'a vécu, ça. D'ailleurs, quand mon fils... Alors, la chance que j'ai eue, ça, c'est la chance de ma vie. C'est que quand mon fils a eu 9 ans, mon fils a fait une dépression. Et je suis allée voir un psychiatre sur Paris qui m'a dit « Madame, votre fils, il fait une phobie scolaire. » Il est très dépressif, il ne peut plus vous quitter, il ne peut pas vous quitter. Il y a quelque chose qui fait que... Et il faudrait que vous alliez à l'hôpital Necker, voir un pédopsychiatre, il m'avait tout organisé, et j'y suis allée. Et là, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui a pratiquement tout pigé en une séance. Mmh. Elle m'a dit, le petit ne va pas bien, parce qu'il a tout compris, il sait tout. Il sait que vous êtes en danger, il sait que votre mari peut vous tuer, il sait qu'à tout moment, il ne peut plus vous décoller, il ne peut même plus aller à l'école. Alors, quand j'ai vu ça, je l'ai déscolarisé. Il avait 9 ans. Je lui ai dit, tu es trop malheureux à l'école, on va chercher une institutrice en retraite dans le quartier. On a trouvé une dame charmante qui lui donnait des cours de français, de mathématiques, enfin les matières principales. Et puis, je lui faisais faire des choses l'après-midi. Ça s'est très bien passé. Il est allé un peu chez mes parents. Et c'est lui, d'ailleurs, c'est lui qui m'a tiré d'affaire, en fait. Parce qu'avec lui, j'étais obligée d'aller de l'avant. Vous comprenez ?
Et votre mari, il a accepté la présence de cet enfant à la maison tous les jours ?
Il n'était pas là, mon mari. Il partait le matin, il rentrait le soir.
J'entends bien, mais il s'est pas opposé à cette éducation-là ?
Ah, pas du tout, il s'en occupait pas.
Ah, il s'en fichait,
d'accord. Il s'en occupait pas de l'enfant, du tout.
D'accord.
Il s'en occupait pas du tout.
Mais il vous a pas empêché de le faire, en tout cas, déjà, au moins.
Ah, pas du tout.
D'accord.
Non, pour ça, il m'embêtait pas. Comme je faisais, du moment que c'était pour les enfants et qu'il ne s'en occupait pas, il ne disait jamais rien. Jamais. Il a jamais dit, tiens, il est pas à l'école, mais t'aurais pas pu trouver une autre solution. Non. Il a rien dit. Alors, oui, ça s'est très bien passé. Et mon fils a eu des séances avec cette femme qui était extraordinaire. Je pense qu'elle n'exerce plus. Je ne sais même plus si elle n'est pas décédée. Et d'ailleurs, elle a écrit des livres que j'ai achetés. des livres formidables hein, sur un tas de choses. Elle était pédopsychiatre et elle m'a mis dans. Elle m'a dit, Madame, vous avez ce que vous vivez, c'est très difficile, mais vous avez des capacités. Il faut que vous fassiez une psychothérapie et vous allez voir, toute votre vie va changer. Moi, je la croyais pas. Je me disais, je vois pas comment ma vie va changer qu'une psychothérapie. Et ben, effectivement, hein, ça a déclenché des choses chez moi extraordinaires. Alors que je pleurais beaucoup, je suis devenue plus joyeuse, je riais plus. Au lieu de ne plus aller vers les autres, alors là, j'ai bravé l'interdit de mon mari et je me suis faite des relations. Et ça s'est bien passé. Et puis un jour, mon mari, comme il est devenu cruel, là, je ne pouvais pas supporter. Parce que c'est très dur, la cruauté. Hein. C'est pire que les coups.
Est-ce que vous avez réussi alors, à là, dire stop, alors, un jour?
Ah bah oui, là, j'ai dit la cruauté, je ne peux pas. Puis il y prenait trop de plaisir. Trop de plaisir à me voir souffrir.
Alors, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, j'ai eu le courage, déjà, de ne pas crier. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je suis allée porter plainte.
D'accord.
Je me suis fait soutenir. J'ai dit à mon fils que j'allais porter plainte. Il m'a dit, oh non, c'est pas ça. Il avait 18 ans. Je lui ai dit, je ne peux plus, je vais mourir. Il ne se contrôlait plus, mon mari. Alors, je suis allée porter plainte. Et bien évidemment, hein, au commissariat, on m'a dit, madame, vous nous mettez en difficulté, vous vous rendez compte? Votre mari est un notable, il est connu, et nous, là-dedans, ah ben j'ai dit, alors ça, je vous apporte des certificats médicaux, je vous amène tout sur un plateau, et vous me dites que je vous mets en difficulté, et ma difficulté à moi, est-ce que vous y pensez? Alors ils m'ont dit, oui, mais, bon, alors ils m'ont dit, mais est-ce que vous divorcez? J'ai dit, oui. J'ai donné le nom de l'avocat et mon mari, bon, il a été entendu, il est passé, mon mari, en correctionnel 2 ans après. C'était long 2 ans. Parce qu'il a fallu toute une enquête de quartier, une enquête de voisinage, il a fallu beaucoup d'éléments dans son travail aussi, c'était très très compliqué. Alors, quand il est passé en correctionnel, il avait écrit à mon fils avant, en lui disant, voilà, est-ce que tu pourrais me recevoir? Je me sens mal. Et puis, il vivait, on n'était pas divorcés, mais il vivait avec une autre femme. Il a dit, voilà, on voudrait venir, on aimerait que tu nous héberges. Est-ce que c'est possible? Alors, ça, c'était par courrier. Alors, mon fils est venu me voir parce qu'il avait son appartement en ville. Oh, il me dit, maman, je suis embêtée. Si tu savais, maman, comme je suis embêtée. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, ben, mon père, il voudrait que je l'héberge. Il me dit, mais moi, tu te rends compte, t'es la victime. Et puis lui, alors moi, je suis perdue. Puis, eh ben, je lui ai dit, mais écoute, je vais te dire quelque chose. Lequel des deux, à ton avis, en a le plus besoin? Il m'a répondu, c'est lui, maman. Parce que toi, tu assumes, lui n'assume pas. Parce que là, je l'avais quitté déjà, mon mari. J'étais partie hein, avec mon fils. On avait pris un appartement, je l'avais quitté. Quand j'ai déposé plainte, il fallait que je parte. Et je lui... Alors il m'a dit, eh ben, puisque tu le prends comme ça, c'est d'accord, je vais l'accueillir.
Mais dites-moi, Agnès, quelque chose d'important, le procès a donné quoi?
Le procès? Il a été condamné à de la prison avec sursis et il m'a donné une somme d'argent, mais je ne pourrais pas vous dire laquelle parce qu'on était en franc.
Non, peu importe. Je voulais savoir s'il avait été reconnu coupable, donc.
Ah oui, il était reconnu coupable.
Mais il avait déjà rencontré une autre femme aussi rapidement.
Oui, il l'avait rencontré déjà, je crois, avant. C'est pour ça qu'il était devenu cruel, parce qu'il me disait tout le temps « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?»« Mais qu'est-ce que je vais faire de toi ?» Je lui disais, tu vas me ramener chez mon père.
Est-ce que vous pensez, Agnès, que c'est cette psychothérapie qui vous a aidé à faire ce grand ménage dans cette vie de couple?
Ah ben, je serais morte.
Ouais. Ça vous a
sauvé. Je serais morte. Sabine, je serais morte. Alors, après, j'ai trouvé du travail, rapidement. Et puis, ma grand-mère, c'est ça, c'est quand je me suis mariée, quelques temps après, elle m'avait dit, tu sais, ma chérie, Voilà un petit tableau auquel je tiens énormément. Je te l'offre. Et si un jour, tu as besoin d'argent, mais vends-le. N'hésite pas, vends-le, je t'en supplie. Mais elle m'a dit, c'est pas pour acheter des vêtements. Elle m'a bien fait comprendre que...
En cas d'urgence,
pas pour...
quoi.
Comment ?
En cas d'urgence.
En cas d'extrême urgence. Mmh. Et je voulais cette thérapie qui m'épanouissait, qui me rendait heureuse, mais un certain temps, ça, si vous voulez, ça a un petit peu fait, ça a modulé le comportement de mon mari. Il est peut-être devenu, il me voyait peut-être un peu heureuse. Il me l'a dit d'ailleurs, hein. Mais quand il a vu que ça n'allait pas à 100% vers lui, il a quand même été trouver la thérapeute en lui disant qu'elle me manipulait, qu'elle me mettait des idées dans la tête et que j'avais maintenant, ma dernière trouvaille, c'était de le quitter.
Oui, il a retourné la situation, là, c'est le monde à l'envers.
Ah bah oui, voilà. Mmh. Alors il lui a dit, mais c'est vous qui lui tournez la tête. Ouais. Mais elle lui a dit, monsieur, il y a beaucoup de thérapeutes sur Paris. Il faut aller voir un thérapeute aussi, vous. Parce que moi, il lui dit, vous allez me prendre, on va bien voir, vous allez me dire ce qu'elle vous raconte. Mais elle lui a dit, non, c'est pas comme ça.
Ah non, surtout pas, non.
Ah non, surtout pas. Elle dit, mais il y en a d'autres. Et puis moi, je me suis épanouie. J'ai rencontré des gens très sympathiques. Parce que c'est bien joli de vous dire, bah, je vais divorcer. Et puis qu'est-ce qu'on fait de ça, hein, après?
Quel âge vous aviez quand vous avez divorcé, Agnès?
J'avais 42 ans.
D'accord, donc il y avait encore de belles années devant vous, quand même.
Oui, quand même, je le voyais bien. Puis je me sentais bien. Je me sentais assez légère.
Ah oui, libre, puis, pour la première fois.
Oui, je me sentais libre. Mais il me manquait quand même. Parce qu'il avait des côtés adorables. Et quand il était dans des phases adorables, je les aimais, ces périodes-là. Mais je n'aimais pas les autres périodes.
C'est ça,
et je pensais aux bonnes périodes en me disant, mais peut-être que ça aurait pu s'arranger, peut-être que j'ai... Est-ce que j'ai été assez patiente? Est-ce que... Non, non. Non, non. Puis Solidarité Femmes me disait, c'est fini, vous pouvez plus, vous avez bu la coupe jusqu'à la lie, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ma fille avait une admiration très grande pour son père. Et puis au tribunal, ça s'est pas très bien passé. Parce que mon mari, qui avait le pouvoir dans son travail, au tribunal, il l'avait pas.
Ah oui.
Alors je ne sais plus ce qu'il a dit au juge. Et le juge lui a dit, mais ici, c'est moi qui ai le pouvoir et qui commande. Je n'ai pas à vous obéir ici. Alors, bon, il a rien dit. Mais ma fille a quand même trouvé, au travers de ce que lui avait dit son frère, qui était présent... Elle a trouvé qu'on avait maltraité son père, ce qui était vrai. Je n'avais jamais assisté à une correctionnelle. Je ne pensais pas que les juges avaient autant de pouvoir. Ils lui ont dit qu'il se comportait comme un délinquant, que, pensez, mon mari, jamais quelqu'un aurait osé lui dire ça.
Ah oui, ils l'ont remis sévèrement à sa place, quoi.
Oui, voilà, il l'a traité comme un homme qui frappait sa femme. Alors il disait, oui, mais j'ai des pulsions. Mais lui dit, mais monsieur, vous avez des pulsions? Mais ça se soigne, monsieur. Ah oui, mais je suis pas malade.
Oui,
mais... Et il expliquait qu'en fait, c'était mon comportement qui lui déclenchait ses pulsions.
Oui, ça c'est typique de tous les manipulateurs, Agnès. Tous les manipulateurs violents vous font croire que c'est de votre faute en plus.
Ah ben voilà. Alors il disait, elle me tient tête. Et elle ne m'obéit pas.
Ah ben oui.
Alors là, il a éclaté de rire quand même. Oui. Alors, pour en terminer, et j'en aurais terminé, c'est que ma fille, elle a quand même pris le parti de son père parce qu'un jour, elle est venue me voir puis elle m'a dit, tu sais, maman, papa me fait pitié. Je lui ai dit, oui, je peux comprendre. Mais je lui ai dit, je trouve étonnant parce que moi, je ne te fais pas pitié. Mais elle me dit, non. Parce que toi, t'assumes, t'es debout, toi. Elle me dit, papa, il assume pas. Elle me dit, depuis qu'il est plus avec toi, c'est comme une épave. Elle dit, je peux pas te dire, il assume pas, mon père. Elle dit, il me fait pitié, t'entends, pitié. Et puis, à la suite de ça, j'étais allée un peu chez ma fille, elle revenait me voir. On faisait Noël ensemble avec son frère. Et un jour, elle m'a fait un courrier. Puis elle m'a dit, voilà maman, il faut que je te dise, Ça fait 10 ou 12 ans que je lutte contre moi-même, mais je déteste ce que tu as fait. Je ne peux pas l'assumer, je ne peux pas le vivre. Alors j'ai pris la décision de ne plus te voir. Je ne veux plus te voir. Ce que tu as fait à mon père, en fait, je ne te pardonnerai pas. Alors, moi, je lui ai refait une lettre, mais sans trop entrer dans les détails. Je ne sais pas ce qui m'a pris de faire ça, parce qu'en fait, ça rimait à rien du tout. Je lui ai dit que je ne voulais pas entrer dans les détails de sa lettre, que j'étais assez grande pour avoir pris une décision qui me paraissait la plus saine. Et je lui ai écrit que je lui ai parlé d'elle, que d'elle. Je lui ai dit, je me souviens de la petite fille, quand tu es née, tu étais petite, potelée, tu étais belle. J'avais plaisir à te serrer dans mes bras. Puis je lui expliquais quand elle avait grandi. En fait, je lui ai fait un petit portrait de sa vie, mais qui était beau, qui était plein d'amour. Je ne peux pas vous dire. Mais quand j'ai fait lire ça, mes amies, elles pleuraient. Mais elle m'a dit, t'as pas du tout répondu à sa question. Ah oui, mais à la fin, j'avais quand même mis que je respecterais son choix.
Et alors, suite à ça, est-ce qu'elle a réagi?
Ah, pas du tout. Merci, elle n'a jamais répondu. Mais je lui ai dit que la maison serait toujours ouverte et que si un jour elle changeait d'avis, elle pourrait toujours venir, que je l'attendais, que je l'aimais et que je l'attendais et que je l'attendrais jusqu'au jour où elle décidera de venir. Et elle n'est jamais venue. Et ça va faire 14 ans que je ne l'ai pas revue. Alors, je la vois par Internet. Si je tape son nom, je la vois.
C'est-à-dire, vous la voyez sur quoi?
Sur Internet, sur Facebook.
Ah oui, mais vous n'avez pas d'échange direct avec elle, vous voyez des photos?
Ah, pas du tout.
Et votre fils...
Je ne pourrais pas la demander en ami. Je me suis la demandé à ce qu'on ait des contacts, parce que j'ai pris l'engagement de respecter son choix. Et c'est là où mes amis ont du mal des fois à comprendre. Elles me disent, on ne te comprend pas. Elle te dit, oh ben je ne veux plus te voir. Eh bien, toi, tu dis, bon, eh ben si elle est plus heureuse comme ça, oui, d'abord, je lui ai dit, si tu es plus heureuse comme ça, n'hésite pas, ne nous voyons plus. Je souhaite que tu sois heureuse. C'est ce que je veux le mieux pour toi. Moi, je m'arrangerai avec moi-même. Et ce que je ressentirai, ça m'appartient. Mais toi, sois heureuse dans ta vie.
Agnès, votre fils depuis 14 ans, vous le voyez?
Mon fils?
Oui.
Ah bah oui, il habite à côté de pas loin D'accord. de chez moi, à 5 km.
Et est-ce que lui est en contact
lui,
avec sa sœur?
Il n'a pas revu sa sœur, non.
Non, il l'a pas revu non plus.
Non.
Vous savez ce que je crains dans cette histoire? J'ai l'impression que votre ex-mari est quelqu'un de très manipulateur.
Oui, il l'a manipulé.
Notamment sur les femmes, visiblement c'est sa manière de fonctionner, et je crois qu'il a la main mise sur sa fille en fait.
Ben, c'est-à-dire, la mamie sur sa fille, c'est très possible. Ce dont je suis certaine, c'est que si elle avait continué de me rencontrer, elle le savait. Elle n'aurait pas pu continuer de rencontrer son père.
Est-ce que vous pensez qu'il a pu aller jusqu'à...
Il l'avait mis dehors.
Est-ce que vous pensez qu'il a pu aller jusqu'à lui faire un chantage?
Non.
En lui disant, c'est elle ou moi?
Ah ben, non, je ne pense pas, non. Mais... disons, quand mon fils s'est marié, il lui a dit, papa, je t'invite au mariage. Est-ce que ta mère ira? Oui. Ah ben non, il n'en est pas question, c'est elle ou moi.
Ah ben voilà.
Eh ben, mon fils a dit.
Donc c'est ça que
j'appelle... Mon fils lui a dit, eh ben moi, c'est maman.
C'est ça que j'appelle du chantage. Et... Hein.
Oui. Alors, après, ça a été le baptême de son petit garçon qui avait 1 an. Et il lui a dit, papa, je t'invite. Est-ce que ta mère vient? Alors, il a dit, oui, maman viendra. Alors, il a dit, je ne viendrai pas. Alors, il lui a dit, écoute, papa, je vais essayer de faire ça au mieux. Maman est venue à mon mariage. Toi, tu viendras au baptême. Puis, ils sont venus me voir le lendemain. Mais voilà, est-ce que je n'aime pas, mon fils va voir son père quelquefois. Il habite à 700 km d'ici, et ma fille aussi. Mais ils sont pas dus. On est à 700 km les uns des autres, et c'est un triangle. Alors, quand il revient, il dit, maman, j'ai quelque chose à te dire. Papa me dit, tu sais, ta mère, eh ben je l'aime encore. Je n'ai jamais pu l'oublier. Tu lui diras, François, il dit, je verrai.
Et vous, lui dit, je verrai. Vous, Agnès, vous en êtes où dans tout ça, là, aujourd'hui?
Moi, je vais bien.
Bon.
Si vous voulez, j'ai la chance que ma fille, je dirais pas qu'elle me manque pas, ce serait. Mais elle est avec moi. Je la sens très présente. Elle est avec moi, je la sens présente en moi. J'ai des jolies photos d'elle. Je suis bien, moi je me sens bien. J'ai pas reçu, quand elle m'a dit que pour son équilibre personnel, il fallait plus qu'elle me voie, je ne l'ai pas reçu comme un coup de poignard. Je l'ai reçu comme un confort supplémentaire pour elle. Elle me demandait ça pour être mieux. Et bien j'ai dit oui.
Quel âge avez-vous, Agnès, aujourd'hui ?
C'est 81 ans.
81 ans.
Ah, je c'est vieux, hein.
Non, je trouve que vous avez une voix jeune. Et vous allez bien, c'est ce que vous me dites.
Ah, mais je vais
vous
bien.
Vous avez trouvé un équilibre dans tout ça ?
Ah bah complètement.
Bon.
Mais je me suis jamais... Dès que j'ai quitté mon mari, je me suis sentie d'aplomb. Mais j'ai pas arrêté ma thérapie.
Aujourd'hui, vous êtes suivie encore par quelqu'un ?
Je suis suivie par mon médecin traitant qui connaît mon histoire, mais qui c'est plus de la thérapie, mais on en parle quelquefois. On évite d'en parler quand même. Pour pas toujours rebrasser. Mais au début, j'ai continué parce que j'ai déménagé.
Mais c'est important.
Et donc, comme j'ai déménagé, j'allais en train à Paris. Je voulais pas perdre.
Agnès, la communication n'est pas très très bonne. Ça fait de plus en plus de bruit, votre téléphone. Vous avez mis le haut-parleur ?
C'est mieux comme ça ?
Ah, c'est nettement mieux. Dites-moi juste, Agnès, qu'est-ce que je peux faire pour vous, moi, ce soir ?
Écoutez, vous m'avez écouté, je trouve que c'est un beau cadeau, déjà.
C'est gentil.
Mais si, c'est vrai.
Alors, je vais vous embrasser, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année.
Vous aussi.
Gardez cette belle énergie positive, ce bel équilibre.
Merci.
Et puis, je me dis que la vie peut-être mettra votre fille sur votre chemin un jour.
Moi, je ne suis pas désespérée, en tout cas.
Non, j'entends ça. Vous avez des
vrai,
amis,
hein.
Vous avez votre fils, il y a plein de choses positives dans votre vie.
Des vrais amis, j'en ai trois. C'est pas beaucoup, trois.
Ça suffit.
Et des vrais.
Oh oui, je suis pas sûre que beaucoup de gens en aient beaucoup plus, des vrais, vous savez.
Oui, et puis les autres, c'est des relations très agréables.
Alors
je vous remercie,
prenez bien
Sabine,
soin de vous, Agnès.
Oui, merci, je vais continuer. Au revoir.
Je vous embrasse, au revoir.
Moi aussi, je vous embrasse.
Bonsoir Andy.
Bonsoir.
Bienvenue
bonsoir,
sur Sabine. Cette libre antenne.
Oui.
Alors je vous écoute.
Écoutez, j'ai l'impression de vivre, vous savez, un roman.
Ah.
Un roman, mais qui se finit un peu bizarrement. Je pense à la chanson de qui disait « Savoir donner sans rien attendre », vous voyez.
Oui.
C'est un peu ce qui arrive là. C'est très simple, très rapide. J'ai mon parrain et ma marraine. Donc, mon parrain est décédé il y a 31 ans à peu près, ou 39 ans. Oui, 39 ans. Mais il s'inquiétait beaucoup parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Il s'inquiétait beaucoup du devenir de sa petite fille, comme il disait, de son épouse. Et moi, je lui avais promis, juré que je ferais tout pour qu'elle puisse. Qu'elle puisse passer sa vie tranquillement. Alors bon, elle est décédée là à 106 ans quand même. Hein.
Ah oui, dis donc.
Ah oui. Alors donc, je m'en occupais comme ma mère, comme si c'était ma mère, vous voyez. Et il y a 16 ans, elle me dit, tu sais ma petite Andy, il faut absolument que je te remercie. Eh ben voilà, j'ai pas d'enfant, on va aller chez le notaire, on va faire un testament. Oh ben non, ma reine, machin. Ah si, machin. Bon, on va faire le testament. Elle me dit, alors elle me lègue, parce que c'est marqué comme ça. Elle me lègue l'appartement et tout ce qu'il y a dedans. Et la petite phrase qui tue, c'est et le surplus, je donnerai le surplus à mes neveux. Bon.
Ouais, c'est quoi tout le surplus
bon. Vous allez le savoir, vous allez voir, c'est assez rigolo quand même.
Je crains le pire là quand je vous entends.
Oui, mais c'est le pire. C'est le pire.
Ça sonne pas bien, cette histoire.
Non, ça sonne pas bien du tout. Bon, elle était persuadée que j'allais rester dans l'appartement, que j'allais prendre l'appartement, tout ça. Bon, donc ça se passe. Et il y a 2 ans, alors je m'occupe d'elle, hein, bien, je fais une garde des services, je vends tout ça, bien, comme il faut faire. Hein. Et il y a 2 ans, paf, elle tombe. Et pan, on l'envoie à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, le service commence à me dire, dites-donc, madame, voilà, elle vit toute seule, oui, vous pouvez pas la prendre avec vous, ben, sinon, hein. Bon, ben, écoutez, il faut absolument la mettre en maison de retraite, etc. Alors, premier combat, maison de retraite. Bon, là, déjà, j'en prends, paf, une baffe. Je ne pensais pas, moi, que c'était si cher.
Ah oui, mais
je me voilà. Alors d'un seul coup, paf, je suis nommée tutrice. Oh ben là, on était contents. Moi, j'étais contente. Je dis, bon ben comme ça, je vais pouvoir m'occuper d'elle bien comme il faut. Je me nomme. Bon, je me bats. Je trouve la maison de retraite. Mais donc la juge, je dis voilà, il y a pas d'argent. Comment on va faire et tout. Mais je dis ben voilà, il faut vendre son appartement. La juge, elle me donne l'autorisation, le pouvoir, là, tout. Puis elle avait bien fait tout parce que comme elle savait. Que bon, il y avait des neveux qui ne s'en occupaient pas et tout. La juge même, elle a voulu sûrement me protéger en plus. Donc moi, je vends l'appartement, je vide l'appartement, tout ça, et du coup, bah c'est une vraie embellie. Donc la marraine, elle est comme un coq en pâte. On paye, je paye tout.
Comment ça se passe? Vous vendez l'appartement, mais l'argent va sur quel compte? Le vôtre?
Ah non, pas de bon. Non. Comme j'étais tutrice, j'avais son compte. C'est moi qui gérais tout.
D'accord.
Avec le, voilà.
Ça va
avec
sur son compte à elle, mais vous avez la main dessus.
J'avais la main dessus, tout ça, voilà. D'accord. Donc, je pouvais faire ce que je voulais, tout. Bon. Mais avec, forcément, la surveillance de la juge de tutelle, bien sûr. Bon, je gère tout ça. Donc, l'argent de l'appartement, bababam, il arrive sur son compte. On est content, on est heureux. Je me dis, moi, si elle vit jusqu'à 120 ans, peut-être, parce qu'elle avait de la et ben, comme ça, il y aura des sous, ça va, elle m'aura pas dans la, et j'étais toute fière, je le suis toujours, d'avoir tenu ma parole pour son mari, voilà, hein. Et puis, bon, ben, là, qui décède, je m'occupe de tout, bien sûr, l'enterrement, tout ça. Elle a eu une messe merveilleuse, sauf qu'il faut que je vous dise quand même que, ben, on était que deux derrière le cercueil.
Ah.
Et ses neveux que j'avais fait venir pour dire, écoutez, si vous voulez voir votre tante, il faut la voir dans les deux ans. Et ils n'ont même pas été foutus d'envoyer une fleur. Bon, c'est ça qui m'énerve un peu.
Qui était le deuxième?
Les neveux?
Non, vous, dites, bah, vous dites on était deux derrière le cercueil.
Qui était maman. Maman et moi.
D'accord.
Voilà.
Et donc,
maman et moi. Mais bon.
Pendant toutes ces années, vous êtes occupée d'elle, il n'y a jamais eu aucune aide. Les neveux étaient invisibles.
Ah non. C'est surtout elle qui leur a donné des sous et des trucs et des machins, ce qui était normal, c'était sa famille, je le comprends. C'était une vieille dame, hein, donc elle espérait toujours qu'ils allaient s'occuper d'elle un jour, quoi. Voilà.
Ils venaient même pas la voir pour Noël ou des choses comme ça, non, du tout.
Ah non, c'est moi. J'ai même été obligée une fois de payer le voyage à sa nièce pour qu'elle vienne en disant, tu sais, elle a 100 ans, il serait bien quand même que tu vas la voir quand elle est bien et tout ça, vous voyez. Donc, voilà, et le téléphone, là, en maison de retraite, je l'appelais, j'appelais son neveu qu'elle connaissait bien aussi, je l'appelais, moi, en disant, parle à ta tante. Et j'avais donné la leçon, parce qu'elle me disait, oh, bah, tu vois, quand je vais mourir, moi, je suis tranquille, parce que tu vas être bien, tu vas être dans l'appartement, tout ça. Alors, j'avais dit, surtout, vous ne dites rien, et j'ai raconté un loup, comme quoi, l'appartement, fallait le réparer, enfin, bon, il y en avait pour 2 ans, vous voyez, en me disant, bah, alors là, elle est partie tranquille, en ne sachant pas du tout que son appartement avait été vendu. Je prends rendez-vous avec le notaire, c'était la semaine dernière. La notaire, elle me dit, oh, bah oui, c'est bien, tout ça. J'amène les papiers, elle ouvre le testament, elle regarde, elle me fait, mais Madame Ousilio, vous avez rien. Je dis, quoi? Elle dit, non, vous avez rien du tout. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bon, l'appartement, c'est quoi? Ben, je dis, non, je dis, il y a de l'argent. Elle me dit, ben, ça va assez une peu.
C'est-à-dire qu'il restait de l'argent de la vente de l'appartement, c'est ça?
Ah ben, il reste beaucoup d'argent.
Beaucoup
d'argent, mais ça, c'est pas grave, hein, mais il reste beaucoup d'argent. Bon, l'État va en prendre sûrement, comme on sait, hein, 60% à peu près, je crois. Et bon, ils vont avoir sa nièce et son neveu, une très belle somme. Et puis moi, bon, ben, merci madame, au revoir.
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la signature?
Alors, ce qu'il fallait faire, c'est que quand elle a marqué « je lègue à madame machin, mon appartement, tout ce qu'il y a dedans, voilà, etc. » et le surplus à mes neveux, ça entendait qu'elle me laissait l'appartement et tout, et que moi, et que ses neveux avaient de l'argent qui restait. Sauf que comme je l'ai vendu, mais il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais essaye de le louer et tout. J'ai dit, non, elle a besoin d'argent, je vends. Et comme j'ai vendu l'appartement n'existe plus.
Ça se transforme en surplus, le fameux surplus, c'est ça en fait.
Le surplus, c'est l'argent de l'appartement qui est resté, puisque en plus de ça, elle est morte, elle est restée un an et demi à la maison de retraite, donc je vous raconte pas qu'il y a pas mal d'argent. Puis moi, j'ai géré ça comme il fallait, mais ça, bon, c'est normal. Hein. Et voilà. Alors la notaire m'a dit, pour éviter ce genre de truc, il aurait fallu qu'elle me marque, au lieu de dire je lègue, qu'elle me mettait légataire universel.
Et ça, à l'époque,
c'était le terme.
Et ça, à l'époque, le notaire qui s'occupait de vous n'aurait pas pu vous le dire ?
Alors, ça, c'est pareil. La notaire m'a dit, mais c'est pas possible, c'est pas un notaire qui vous a fait écrit ça. Je vous jure que si, c'était un notaire de province, hein, parce que j'avais été là où elle habitait avant. J'ai dit, mais je vous jure que si, c'est lui qui a fait ça. Alors, bon, on subodore qu'il y a eu quand même un loup là-dedans. Est-ce que le notaire l'a pas fait exprès ? J'en sais rien. Vous savez, hein, bon, on va pas faire, mais bon. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, dans la vie, rien ne se passe comme on veut. Vous voyez ? Donc, il faut, il faut faire les choses. Moi, je les fais avec amour et tout ça, et puis mes promesses et tout. Mais il ne faut rien attendre. Vous savez, comme par exemple, il y a Kersauzon, le marin, qui disait « Tant qu'on n'a pas pété la ligne d'arrivée, on n'a pas gagné. » Eh bien là, ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'est pas sûr, que le notaire vous dit « Oui, c'est ça, c'est bon, c'est machin », eh ben, voilà.
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Hein. Voilà, oui, mais là, ce n'était pas une promesse. Là, c'était vraiment...
Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a rien à faire sur un plan légal pour essayer de contrecarrer ça ?
Ben, je ne sais pas, moi. Moi, je pense que la notaire, la mienne, c'est mon notaire à moi, ça. Je pense qu'elle doit le savoir quand même, non ?
J'imagine, elle vous a rien proposé du tout ? Il n'y a pas la moindre action à faire ?
Non, elle m'a simplement proposé de m'aider à faire le courrier pour les neveux, pour que j'ai pas d'ennui, de leur dire bon bah vous me donnez votre notaire. Alors elle m'a dit bon vous marquez, elle m'a dicté la lettre en disant il y a un testament de fait et voilà. Par contre il y a un truc que j'ai pensé aussi parce que de toute façon moi je suis assez fataliste et je me disais c'est pas possible une somme comme ça ça reviendra jamais sur mon compte, je sais pas pourquoi c'est comme ça, voilà, peut-être une intuition. Et j'ai dit à la notaire mais attendez là, même si ce testament était légal. Était bien formulé et tout, que j'étais machin. Rien n'empêchait que dans les deux ans après qu'elle ait fait ce testament, rien ne l'empêchait d'en faire un autre.
C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est celui d'origine, celui-là ?
Moi, c'est l'origine, oui, oui.
Oui.
Mais déposé chez le notaire, mais c'est l'origine. Oui, mais elle, rien n'empêche que cette grand-mère, qu'elle avait quand même déjà 90 ans à l'époque, bon, elle avait une nièce par alliance qu'elle adorait, bon, qui venait la voir de temps en temps, puis qu'après, elle n'est plus revenue du tout. Mais est-ce que des fois, cette nièce ne l'aurait pas, puisqu'elle avait toute sa tête, ma marraine, hein, qu'elle ne lui aurait pas fait faire un testament, et on aurait eu la surprise peut-être dans 2 mois ou dans 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dire, bon, je suis pas contente. Bon, c'est vrai, je suis pas contente. Je suis pas contente, pourquoi ? Parce que je dis, ben voilà, il y a des gens, ils vont avoir une somme formidable sur leur compte, grâce à moi en plus, sur leur compte. Et puis, ils ont même pas envoyé une fleur pour son enterrement, rien. Ça, c'est pas bien, ça. Bon, ce qui me console, c'est que la marraine n'a jamais su qu'on a vendu son appartement. Et bien... Et de deux, c'est que moi, j'ai tout fait pour que jusqu'à la fin de sa vie, elle soit bien, quoi.
Ça, c'est bien, voilà. Parce qu'au moins, vous êtes en paix avec vous-même et en accord avec vous-même là-dessus. Vous pouvez être fière de vous.
Ah oui, moi, je suis en accord avec moi. Puis je vais vous dire, hein, si demain, il se représente une autre dame ou un autre truc et puis qu'il faut faire pareil, je ferai pareil. Vous voyez, faut pas attendre. Mais c'est vrai que quand elle m'a annoncé ça, mais c'est pas légal, madame.
Oh, ce qui n'est pas juste, c'est que vous avez été très, très mal conseillée à l'époque, quoi.
Ah bah oui, bah alors attendez, je sais pas si j'étais mal conseillée parce que le notaire me dit pourquoi pas une donation qu'il fait à Louisette, pourquoi pas une donation qu'il fait à ma marraine. Je lui dis alors là c'est moi qui ai pas voulu parce que j'ai dit non moi je suis toute seule et j'ai pensé parce que vous savez j'étais représentante et tout ça. J'ai dit, je suis toute seule, je me fais tuer sur la route. Bon, moi aussi, je vais avoir des héritiers. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des héritiers. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont s'occuper de cette dame qu'ils connaissent pas ?
Vous voyez ? Oui, donc vous avez été prudente là-dessus. Mais j'étais en train de me dire que c'est au moment de la vente de l'appartement qu'il aurait fallu être bien conseillé. C'est à ce moment-là. C'est là que ça a déraillé, en fait.
Si, non, j'ai été bien conseillée, mais je savais que il fallait pas le vendre. Ça, il y a quelqu'un qui m'a, un voisin qui est très très bien, qui m'a dit, mais André, vous pouvez pas le, André, il me dit, vous pouvez pas le, comment dire, le louer, tout ça. C'était un vieil appartement.
Oui, mais il vous a pas expliqué pourquoi, en fait.
Si, il m'a dit, mais essayez de trouver quelque chose, faites quelque chose, mais si vous le vendez, vous risquez de rien avoir.
Alors donc, il vous a mis en garde à ce moment-là.
Oui, mais lui, il n'avait pas vu le testament. Alors, je lui ai dit, oui, mais j'ai un testament. Ah, bah, il me dit, bon, ça va.
Ah, c'est dommage, voilà, vous avez été à ça de pas faire la bêtise à ce moment-là.
Il avait raison. Mais de toute façon, je leur ai fait quand même la bêtise, Sabine, parce qu'elle n'avait pratiquement rien sur son compte. Oui, la maison de retraite, voilà.
Vous avez besoin
de cet argent. Bon, elle n'avait rien. On en a parlé avec la juge. Il fallait le vendre. De toute façon, son mari avait acheté ce petit appartement pour qu'elle soit bien, parce qu'il savait qu'il était malade, pour qu'elle soit bien pour la fin de ses jours et qu'elle manque de rien. Donc moi, j'ai agi. Je le savais, hein, j'y pensais, hein, mais je pensais pas comme ça. Je me disais bon. Alors c'est ça qui m'a un petit peu énervée quand même. Alors ce que je veux dire, c'est que surtout les gens. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il faut surtout marquer, si vous voulez vraiment qu'il ait tous les biens que vous voulez, il faut marquer légataire universel. Voilà. Et là, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, c'est cette phrase-là qui coupe tout. Je lègue à machin, et voilà. Et c'est ça qui a tout surpris. Ben voilà.
Ah, dites-moi, Andy, votre vie à vous, elle ressemble à quoi alors aujourd'hui? C'est un grand changement, en dehors de cette histoire financière.
Ah, bah alors là, c'est quand même une page qui est tournée.
Ben oui, c'est ça. Ça,
j'ai beaucoup de peine. Mais bon, je me dis, j'ai fait ce qu'il fallait, tout ça. Voilà.
Ça, oui, je crois que vous avez été quelqu'un de formidable pour elle, hein, pour cette femme. 106 ans, vous vous rendez compte?
Ouais. Ben c'est bien, moi j'espérais l'amener plus loin que ça, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez?
Beau, hein, c'est déjà beau.
Ouais. Et alors par contre, j'ai une petite vengeance.
Ah, racontez-moi.
Ah oui, c'est mesquin. Ah, c'est mesquin. Je vais vous expliquer.
Vous m'avez pas l'air très mesquine, pourtant.
Oui, ben, je vais vous expliquer. Elle avait une alliance. Et quand ils l'ont emmenée de la maison de retraite au machin, là, ou comme dans la chambre froide, là, quand j'ai été la voir pour le lever du corps, elle avait une alliance de son mari. Une alliance de son mari avec des diamants autour. Alors moi, dans mon idée, comme je pensais que j'héritais, j'avais dit, ça, je vais l'enlever, puis je la donnerai à sa nièce, qu'elle considère un petit peu comme sa fille. On essaye d'enlever, ça va pas. Alors je dis une bêtise, je dis au monsieur, non, écoutez, ne la blessez pas, hein, laissez-lui.
Oui, forcément.
Et du coup, elle est partie. Avec son alliance dans le cercueil, voilà. Et je suis contente.
Je pensais que vous alliez me dire que vous l'aviez piqué. Ben non, vous voyez, vous n'êtes pas...
Non. Non, mais de toute façon, j'ai dit, elle ne peut pas l'enlever. D'habitude, ils les enlèvent. Et ils n'ont pas enlevé, ça, c'est Dieu qui a voulu ça. Et on le fait. Et puis maintenant, je suis très contente parce que je sais qu'on va m'en parler de cette alliance.
Qui va vous en parler?
Là, je dirais, écoutez, elle est partie avec, hein.
Qui va vous en parler maintenant? Qui savait?
Parce que ce neveu, il me connaît. Ils sont venus la voir plusieurs fois quand même à la maison de retraite là dans les 2-3 ans. Il savait avant il la fréquentait. Je l'emmenais chez eux moi pendant les vacances et tout ça. Vous voyez, avant que je m'en occupe vraiment, je l'emmenais en vacances dans le pays là-bas. Et elle voyait ses neveux, elle restait avec eux. Puis un jour, elle a décidé de plus y aller. C'était trop fatigant pour elle. Elle avait 80 ans. Donc, des fois, ils venaient chez elle, tout ça, vous voyez. Donc, ils savent très bien ce qu'elle avait comme bijoux et tout ça.
Donc, vous pensez que ça va remonter à la surface, cette histoire de bague?
Oh oui. Mais là, je les attends. Là, je les attends. Je dis, Puis, de toute façon, j'ai le témoin. Hein, les gens qui l'ont enterré, quoi. Ouais. Non, enfin, voilà.
Du coup, concrètement, ça en est où là pour l'instant? La procédure est en cours?
Puisque c'était la semaine dernière, parce que elle est morte le 5 novembre.
C'est tout récent alors?
Ah, c'est tout récent, c'est pour ça que je vous assure que j'ai pris une baffe. Je me suis dit, non, mais c'est pas juste, la vie c'est pas juste quand même, mais bon. J'ai vu le notaire la semaine dernière, elle m'a dit, vous allez faire un courrier, que vous envoyez en recommandé à l'accusé de réception. Et elle m'a dit, surtout, vous gardez tous les papiers, vous ne leur envoyez rien du tout.
Attendez, un courrier à qui?
Alors, au neveu, que j'ai l'adresse, au neveu, pour lui dire, ben voilà, je suis tutrice, comme vous le savez, je suis tutrice de votre marraine, voilà, elle est décédée, machin, machin, pour envoyer les documents, etc., prière de me donner l'adresse de votre notaire, et je vous signale également qu'il y a un testament en cours qui est chez ce notaire, donc moi je vous donne le notaire de Madame Malin, qui est là-bas, et puis voilà, et puis après, moi je m'occupe plus de rien. Puisqu'il y avait que de l'appartement, et l'appartement, il n'y a plus que des sous.
Oui, ça va se régler entre notaires, et eux vont récupérer dans quelques mois l'argent du compte, quoi.
Oui, voilà. Bah, écoutez, c'est une page qui tournait. Faut la tourner. Bon, je ne suis pas contente, quand même. Hein, bon, c'est pas ça. C'est même pas ça. C'est que je me dis, ben voilà, de toute façon, c'était trop beau pour être vrai, ça. Donc, voilà, quoi. Puis j'ai ma conscience pour moi quand même. Mais c'est ce que j'ai voulu, ce que j'ai pensé. J'ai dit, mais attends, cette expérience-là, il faut quand même la dire. Parce que combien de petites mamies comme celle-ci veulent donner des choses à des gens par amour, etc. Et ils vont faire comme elles, je lègue ceci, cela. Et puis non, c'est pas, ça va pas, vous voyez. Il faut vraiment utiliser les vrais termes, quoi.
Et ce qui m'embête dans votre histoire, c'est que vous avez payé des professionnels qui vous ont quand même mal conseillé à l'époque, quoi.
Oui, mais c'est parce que, écoutez, vous savez, il y a un truc dans la vie, ça s'appelle le destin. J'ai écouté votre petite dame, là, de 80 ans, en attendant. Bon, voyez les destins quand même. Moi, je dis que bon, ça s'appelle le destin, c'est tout. On peut pas aller contre son destin, de toute façon.
Vous êtes de bonne composition, Anne, lundi, hein?
Non, je suis. Vous savez, j'ai 70 ans. Donc,
ça s'entend pas, dis donc. Vous avez une pêche.
Il paraît que ça ne se voit pas non plus.
Ça, mais je peux difficilement vous le dire, mais en tout cas, à la voix, vous avez une super énergie.
Oui, je suis très énergique. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai de la... je regarde, j'écoute, je me suis assise sur mon derrière, comme dit l'autre, et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, alors voilà. Oui, peut-être que moi-même j'ai fait des bêtises, mais je ne pouvais pas, et même... Si j'avais pris le testament, j'avais été voir un avocat, par exemple, oui, qui m'avait dit « Oh non, c'est pas ça du tout. Vous me voyez revenir avec le testament et dire à cette personne « Oh bah écoute, c'est très gentil, tu fais ça, mais tu sais, c'est mal libellé, il faut que tu le refasses. » Non, elle avait 90 ans.
Bah, c'est compliqué, de toute façon, on ne peut pas refaire l'histoire.
Ben voilà. Oui. Non, mais bon, je me dis c'est le destin, c'est comme ça, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais j'ai pensé à vouloir raconter mon histoire. Ça ressemble à un livre, quand même, cette histoire.
Un petit peu, oui. Vous pourriez en faire un livre. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, ce que vous vouliez, c'est partager cette expérience-là pour mettre en garde les auditeurs là, sur ce genre de situation.
Voilà, ouais.
Attention au terme,
parce que voilà, d'un seul coup, parce que la vie, ça ne se passe jamais comme on veut. Elle voulait rester dans son appartement. Poum! On n'a pas pu, les gens se sont mis, les services se sont mis sur le dos, voilà. Et puis voilà, on se retrouve avec rien, et c'est tout. Et alors que, bon, c'est pour ça, faire attention aux termes, c'est ce que je voulais raconter, quoi.
En tout cas, vous pouvez être fière de vous, Andy. Vous n'avez peut-être pas beaucoup d'argent sur le compte, mais vous avez un grand cœur.
Ah ben, merci.
Et il me semble que c'est plus important quand même, finalement. Oui. Parce qu'à la fin de sa vie, on ne part pas avec un compte en banque, hein.
Voilà, exactement.
On part avec ce qu'on est.
Et puis, comme ça, je peux me regarder dans la glace.
Exactement.
Vous voyez, j'ai pas à dire, ah oui, mais j'ai pris de son argent, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, moi, j'ai fait... D'ailleurs, elle le disait à ma mère, elle disait, ah, mais tu sais, moi, j'ai confiance avec Andy, je sais qu'elle est très honnête, etc. Mais c'est comme ça, j'étais comme ça, quoi. Puis je l'aimais beaucoup, quand même. Il y a ça aussi, il y avait quand même de l'amour quand même.
Mais j'entends ça, vous êtes quelqu'un de sincère, c'est, ça s'entend.
Ouais. Puis son mari, de toute façon, j'ai dit à maman, écoute, on avait une dette avec son mari. Il avait sauvé la vie de mon père pendant la guerre. C'était des frères, c'était devenu des frères, vous voyez, il l'avait transporté sur son dos d'Orléans en Bavière, parce que papa était très malade et il l'a sauvé, quoi. Bon, après, ils sont revenus de la guerre, ils se sont jamais quittés. Moi, ma marraine, elle m'avait vue toute petite, hein, bébé. Hein. Donc, j'ai dit, si papa n'avait pas connu, il aurait pas été sauvé. Il serait mort, moi, je serais pas là, et puis toi, tu l'aurais pas épousé non plus. Voilà, donc on avait une dette morale avec lui. Ben, je prends ça comme ça, et je me dis, maintenant, j'ai plus de dette.
Sacrée histoire, Andy. Vous voudriez pas l'écrire sérieusement depuis l'histoire de votre papa jusqu'à aujourd'hui?
Si, mais j'ai du mal à trouver les mots parce que moi je fais.
Bah quand je vous écoute ce soir, vous les trouvez bien les mots. Hein.
Oui, mais à les écrire, c'est pas pareil. Je fais des biographies, voyez. Mais c'est quand je vous ai parlé de Kersauzon tout à l'heure. Bon, bah j'ai fait pour un petit neveu l'histoire de Kersauzon que j'ai quand même. Bon, ben voilà. Mais j'essaye de faire des trucs, mais c'est vrai que je voudrais bien raconter l'histoire de papa et de son.
Elle est belle, cette histoire, Andy, vraiment.
Ouais, ouais. Mais je sais pas comment faire. Faudrait que je m'y mette, en fait. Voilà.
On ne sait jamais si on a parmi nos auditeurs ce soir quelqu'un qui sait bien écrire et qui aurait du temps pour vous aider, pourquoi pas?
Ouais, pourquoi pas. Ça serait une belle histoire.
Hein, mettre en récit.
Mais on n'a pas encore l'épilogue, là.
Non, mais bon, il y a déjà de quoi raconter, hein.
Ah oui. Rien que ce truc, c'est. Ah là là, mais bon. Bon, moi, ce que je peux dire, bon, elle n'a pas su. Et puis maintenant, je me dis, j'espère qu'elle ne sait pas, qu'elle ne voit pas, qu'elle ne sait pas. Et donc, comme ça, c'est bien.
Tout ce qu'elle voit et ce qu'elle sait sans doute, c'est que vous avez été là pour elle du fond du cœur.
Ouais. Ça, je sais. Mais elle est partie très vite. On a fêté ses 106 ans et puis, pof, un mois après, elle a attrapé un petit virus, un petit microbe et puis elle en avait assez aussi.
106 ans, ça aussi, c'est une histoire exceptionnelle, hein, vraiment.
Ouais.
Merci pour ce beau témoignage, Andy.
Merci à vous, Sabine.
Je vous souhaite de belles fêtes de Noël aussi lumineuses que vous.
Merci beaucoup et puis je vous écoute tous les jours.
Je vous embrasse.
Au revoir.
Et oui, il va déjà être l'heure de nous quitter. Un grand merci à vous, Andy, merci à Agnès, merci à Laurent. Merci à Julien qui sont venus ce soir apporter des témoignages souvent extrêmement beaux, extrêmement positifs. Merci à vous qui avez participé aussi par SMS. Je vous retrouve demain soir à partir de 23h sur cette libre antenne. Et je vous quitte sur une citation que j'aime beaucoup. La porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Passez une bonne nuit, on reste en contact sur ma page Facebook Sabine Marin et je vous dis à demain soir.